Radio Capilance, dès ce lundi 27 avril, un programme d'éducation à distance. En partenariat avec les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique et l'UNICEF. Suivez Okapi École du lundi au vendredi à 9h05 et 14h05, heure de Kinshasa. Okapi École, pour mieux s'occuper des élèves des écoles de la RDC en cette période de confinement.
Bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Depuis plus d'un mois, les activités scolaires ont été suspendues dans le cadre de la riposte contre la pandémie du coronavirus. Et avec la prolongation pour un mois de l'état d'urgence sanitaire, d'aucuns parlent déjà d'une année blanche pour le bleu-blanc, ce qui n'est pas du tout l'avis du ministre des tutelles. Pour combler le vide, il y a des enseignements à distance tels que la classe télévisée. Et très bientôt sur Okapi, vous aurez un nouveau programme dénommé École Okapi, la radio école sur Okapi. Alors, dans d'autres écoles, bon, on envoie les devoirs par Internet, sur Internet. Et puis, bon, voilà, on essaye de donner quelques enseignements en ligne pour occuper les enfants pendant cette période. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour sauver l'année académique scolaire en cours? On en parle aujourd'hui avec Monsieur Rombo Makadi, conseiller chargé des provinces et suivi des normes au ministère de l'EPST. Monsieur Rombo, encore une fois, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Alors, avec coronavirus, le confinement, l'état d'urgence qui vient d'ailleurs d'être prolongé de 4 semaines, beaucoup de personnes pensent que c'est perdu d'avance pour cette année scolaire.
Merci, monsieur le journaliste, pour l'invitation. Coronavirus, c'est une pandémie qui pratiquement donc a atteint le monde entier. Le président de la République, pour protéger donc la population, il a décrété l'état d'urgence sanitaire. Nous sommes devant un cas de force majeure. Nous, en tant que ministère, l'autorité, effectivement, donc, a pris un certain nombre de mesures pour encadrer les enfants. C'est vrai, la première phase, donc, de un mois de l'état d'urgence, oui, a été effectivement donc reconduite pour 4 semaines encore. Mmh. Pour le ministère de l'EPST, nous avons monté un certain nombre de stratégies. Comme vous le savez.
D'abord, est-ce que l'année sera déclarée blanche ou pas?
J'en viens, monsieur le journaliste.
D'accord, allez-y.
Oui. Au niveau donc du ministère, je voudrais rappeler que un calendrier, une année scolaire comprend 9 mois. Et la loi a fixé le nombre de jours des classes. Le minimum, donc, c'est 180 jours des classes. Mmh. Et le maximum, je pense, c'est 220 jours. Alors, au moment où le chef de l'État a déclaré donc l'état d'urgence sanitaire, au niveau du ministère, on avait déjà comptabilisé 150 jours de classe. Ce qui veut dire que si nous voulons effectivement donc être en conformité avec la norme, donc il nous reste à peu près 30 jours de classe. Mmh. Donc par rapport donc à ces 30 jours de classe, au niveau du ministère, nous avons monté quatre variantes en termes donc des calendriers scolaires, pour terminer, pour achever l'année scolaire.
Mmh. Donc la première variante... Pour accomplir ces 30 jours-là, pour combler ces 30 jours.
Oui, donc il y a les 30 jours plus quelques jours, tout au plus, c'est 40-45 jours, disons, oui.
D'accord. Oui. Quels sont les différents scénarios montés?
Oui, on a prévu donc un réaménagement du calendrier à la fin donc du premier mois de l'état d'urgence. Alors, la deuxième possibilité, comme le président a aussi prolongé, on a prévu donc une deuxième variante des calendriers scolaires réaménagés. Mmh. Et on a prévu donc 3 variantes. Donc la troisième qui va aller, donc si l'état d'urgence va jusqu'au mi-juin, donc le calendrier sera réaménagé et on pourra terminer donc les enseignements à la fin du mois de juillet. Ça, c'est de manière pratique. Mmh. Mais voilà, mais comme vous et moi, vous constatez que la pandémie au niveau de notre pays a été localisée au niveau des 3 provinces, 4-5 provinces principalement. Mmh. La ville de Kinshasa, qui est l'épicentre, et les 4 autres provinces. Dans d'autres provinces, effectivement, on n'a pas encore identifié des cas. Alors, son excellence.
Mais les enfants sont à la maison.
Les enfants sont à la maison.
Oui.
Voilà. Donc, par rapport à cette réalité qui est la nôtre, son excellence, monsieur le ministre d'État, ministre de l'EPST, Willy Bakonga, a pris l'initiative de contacter, donc, l'équipe technique de Riposte pour effectivement, donc, poser les problèmes du ministère de l'EPST. Donc, par rapport à la réalité, donc, de notre pays.
Mmh. Et faut-il relancer les enseignements dans les provinces non touchées par
oui,
Corona?
Oui, c'est dans cette perspective-là, effectivement. Oui. Donc, c'est dans cette hypothèse-là que le ministère d'État a été contacté, donc, l'équipe des Riposte, qui sont les techniciens, effectivement, du gouvernement. Et les problèmes a été posé, et les techniciens ont promis, effectivement, qu'ils vont poser les problèmes au niveau, effectivement, du groupe élargi qui a été mis en place, et ils vont contacter, donc, le ministère. Donc, par rapport à cette préoccupation, il faut dire que le ministère de l'EPST, à l'époque ministère de l'EPSP, a quand même une expérience assez avérée en matière d'organisation des programmes spéciaux ou des rattrapages.
Vous avez déjà connu de ces cas de perturbations?
Tout à fait. Oui. Pendant les guerres, et même à l'époque donc des Kamouenasapo, des tristes mémoires, effectivement. Mm. Et des sessions étaient organisées dans des provinces non touchées et le ministère s'arrangeait avec ses techniciens pour organiser des sessions spéciales dans des provinces qui étaient touchées. Donc nous pensons que le ministère est très outillé si on a les autorisations, d'abord un, des techniciens, et puis de deux, l'autorisation donc du magistrat suprême, donc le président de la République.
Alors vous avez parlé de trois scénarios. Le premier, c'est le réaménagement du calendrier.
Le calendrier scolaire, oui.
Deuxième?
Oui, deuxième, effectivement, donc l'autorité a été contactée, donc
le comité des Ripostes.
Le comité des Ripostes. Mmh. Et puis des trois, organiser des enseignements dans des zones qui ne sont pas touchées par coronavirus, mais tout en respectant effectivement les mesures barrières.
Mmh. Oui, oui. Mmh. On va accueillir les auditeurs. Omer Mumputu nous appelle de Kikwit, chef des travaux Omer Mumputu de Kikwit. Bonjour. Monsieur le chef des travaux, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Capi Service. Quelle est votre préoccupation?
Oui, merci. C'est pour contribuer à notre émission concernant la reprise des activités scolaires et primaires. Effectivement, je suis d'accord avec le ministre et aussi avec tous ceux qui veulent que les activités scolaires puissent reprendre. Voici les raisons, comment je vais motiver ça. Ne pas reprendre l'année scolaire, c'est causer du tort à nos élites de demain. C'est pourquoi il va falloir que nous puissions faire tout pour que la reprise des activités scolaires, voire même académiques, puisse se faire. Pourquoi je le dis? Parce qu'en principe, il n'était resté que 3 mois et demi. Je ne sais pas si vous me suivez.
Oui, allez-y rapidement. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Soyez bref, rapidement.
Ok, merci beaucoup. Donc, il ne restait que 3 mois et demi pour que l'année scolaire se clôture, voire même pour l'année académique, il n'était resté que 4 mois. Alors, pour les établissements bien avancés, nous ne pensons pas qu'on peut proclamer l'année blanche. Raison pour laquelle nous sommes dit qu'il y a moyen, on arrive à la reprise des activités scolaires et voire même primaires. Du côté aussi des activités de l'année académique, on peut aussi reprendre. Et on s'est dit, si tel a été le destin pour tout le monde, dans le monde entier, et il y a la pandémie, et nous ne savons pas quand ça va prendre fin. Ça peut aller même 5 ans, 6 ans. Alors dire que nous puissions accorder une année blanche, ça serait difficile. Je crois que l'idée des ministres serait meilleure. On peut reprendre, mais en observant toutes les mesures.
Les mesures barrières. Merci monsieur Omer de Kikwit. Chef, on va donner la parole au chef des travaux, Bob Isomba de Mbandaka. Bonjour. Monsieur Bob Isomba, bonjour.
Bonjour, je suis à l'écoute, monsieur le journaliste.
On vous écoute. Quelle est votre question? Bienvenue dans Capi Service.
Oui, ma question, c'est simplement dire que la RDC a toujours la chance d'élaborer des programmes vraiment ambitieux sans tenir compte des réalités du Congo profond. Et si j'ai dit ça, c'est en rapport avec le système de l'enseignement sur TV, qui a la chance au moins d'être obtenu dans les grands centres urbains, à l'instar de Kinshasa, de Lubumbashi, de Goma, de Bukavu, et que sais-je encore. Mais sans tenir compte que nous avons au Congo aussi les villages qui sont lointains. Or, ces fléaux Covid-19 a fait peur à tous les Congolais. Ça fait peur à tous les Congolais. Ça ne fait pas peur seulement à ceux qui sont dans les centres urbains, mais ça fait peur à tout le monde. C'est pourquoi pour moi, j'étais en train d'abord avant de poser la question, de proposer qu'on prolonge l'année scolaire ou académique, parce que nous étions presque déjà à la fin. Et aussi, de tenir compte, de ne plus tenir compte des vacances, des grandes vacances effectivement, quelles que soient certaines nécessités psychopédagogiques, mais aussi prévoir un programme spécial pour les écoles rurales, en plaçant à la radio Okapi les fréquences SW ou AM qui pourraient atteindre la plus grande population scolaire du Congo. Car le système de TV s'est réservé simplement à une frange des populations et surtout des populations urbaines. C'était ça ma préoccupation. Mais ma question est celle de savoir,
oui,
pensez-vous vraiment que le système TV, qui a la chance d'être plus ou moins appliqué dans les grands centres urbains, les villageois qui sont au fin fond du Congo pourront avoir la chance
et de suivre.
Ça, ils auront
d'accord,
presque le même examen d'État.
D'accord.
Et tous les autres Congolais, ils ne seront pas exclus. C'est ça ma question. Est-ce que ça a vraiment
merci,
la capacité
merci beaucoup
d'atteindre
oui, oui. D'accord, merci. Merci bien, monsieur le chef des travaux. On va donner la parole à Théophile Mompalois, psycho-éducateur, chercheur et chef des travaux à l'Université Pédagogique Nationale. Monsieur Théophile Mompalois, bonjour. Théophile Mompalois, vous êtes en ligne, bonjour. Voilà, on va le rappeler tout à l'heure. Bien, monsieur Rombaud, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs?
Merci beaucoup. Je suis très content parce que je réalise que ce sont des scientifiques qui interviennent donc dans cette émission, parce que moi-même aussi je suis chef des travaux. Mm-hmm. Voilà, donc je voudrais remercier donc les collègues pour leur contribution, apparemment qui souscrivent donc à la démarche du ministre. Il y a les collègues de Mbandaka qui marquent qu'il y a une préoccupation par rapport aux cours télévisés. Mm-hmm. C'est vrai, donc le ministère de l'EPST a mis en place une série de batteries pour encadrer les enfants pendant cette période ici, pour éviter effectivement qu'ils puissent perdre effectivement donc ces goûts-là à la formation. Donc en sus, donc l'enseignement, le cours par télévision, c'est une des batteries. Vous avez dit tout à l'heure là qu'avec l'UNICEF, mm-hmm, vous allez aussi procéder donc à la formation à distance.
Radio École sur Okapi.
Voilà,
ça, ça commence déjà ce
oui,
dimanche.
Oui. Donc il y a Monsieur Bob, il y a le ministère est en train de mettre sur pied donc plusieurs batteries pour encadrer donc les enfants en attendant la reprise effective des cours au niveau des salles des classes.
Mais son problème, c'est que
oui, j'en viens. C'est vrai. Donc on a pris en compte effectivement ces enfants qui se trouvent à l'arrière-pays, à l'arrière-pays. Donc il y a les pédagogues, donc les spécialistes, donc en pédagogie du ministère, qui sont en train donc de monter des programmes, d'écrire un certain nombre donc des modules. Je pense que le moment venu, nos représentants en province, notamment les provèdes et le sous-provèdes, ainsi que les inspecteurs provinciaux, ils vont prendre contact avec le chef d'établissement pour voir dans quelle mesure effectivement ils pourront procéder donc à l'encadrement des enfants en cette période très très difficile.
Mais ce qui est vrai, que la classe télévisée n'est pas suivie dans les villages. Hein. Il y a pas de courant, il y a pas des infrastructures.
Oui, c'est vrai. C'est pas seulement la réalité congolaise. C'est pas seulement la réalité congolaise, même sous d'autres cieux, là où quand même on reconnaît aussi que l'internet est très développé, c'est vrai, ils dénoncent aussi cette démarche, cette formation sur internet.
Oui, oui.
Voilà, oui. Mais du moins, c'est une des variantes que le ministère a mis sur pied pour encadrer les enfants. Mais nous pensons aussi aux enfants qui se trouvent donc à l'arrière-pays. Et les spécialistes donc du ministère
sont en train de réfléchir.
Ils sont en train de monter des programmes.
Des programmes.
Des modules de formation. Et nos collègues à l'intérieur, le représentant du ministère à l'intérieur, ils vont contacter les chefs d'établissement le plus rapidement possible pour voir dans quelle manière ils peuvent encadrer les enfants en cette période très, très délicate. Oui.
Théophile Mompalois, vous êtes psycho-éducateur, chercheur et chef des travaux à l'Université Pédagogique Nationale. Bonjour.
Bonjour, bonjour aujourd'hui.
Nous, bien, nous parlons de comment sauver l'année scolaire 2019-2020. Tout à l'heure, notre invité, M. Rombo, a parlé du réaménagement du calendrier. On pourra, si les enseignements reprennent, bon, on pourra organiser des sessions spéciales. On est en train de voir aussi comment reprendre les enseignements dans les zones, dans les provinces non touchées par coronavirus. À votre avis, qu'est-ce qui doit être fait pour sauver cette année?
Oui, oui. Mon collègue de tout à l'heure s'est appesanti en amont. C'est-à-dire, il a fait des propositions par rapport aux stratégies qu'il faut initier au niveau externe. Mm-hmm. Tandis que je parle de niveau externe, c'est-à-dire au niveau de l'État. Hein, il faut revoir le calendrier, il faut ainsi de suite. Alors moi, je voudrais m'appesantir sur les stratégies internes, internes à partir de l'élève lui-même. Hein, les élèves, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces élèves ne soient pas dépassés, ne soient pas hors calendrier, ainsi de suite. Pour ce faire, j'insiste, il faut le faire de façon, disons, progressive. C'est-à-dire quoi? C'est comme on a fait le constat par rapport à l'invasion de ce Covid-19, n'est-ce pas? Mm-hmm. Donc, on a constaté qu'il y a certaines communes qui sont, par exemple pour Kinshasa, qui sont plus affectés par rapport à la même chose, c'est-à-dire au niveau interne. Essayez un peu de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir aider ces élèves-là à ne pas être déphasés, à ne pas être subir l'obscurantisme scolaire. C'est-à-dire quoi? Nous constatons présentement, par exemple, que compte tenu des moyens dont les parents ne disposent pas, qui sont tout à fait moindres parce que nous sommes dans un pays sous-développé. Eh bien, la plupart des enfants, je voudrais rappeler ceci, qu'une société d'abord humaine bien organisée se préoccupe de son avenir. Ici, en situant ces jeunes, les enfants, au cœur de son développement et se garde le temps nécessaire pour pouvoir réfléchir sur son éducation et sur son état de santé.
Alors, monsieur Théophile, au niveau de l'enfant, vous avez dit qu'est-ce qui doit être fait concrètement?
Qu'est-ce qui doit être fait pour l'instant? Vous verrez que même les petits-enfants, là, ils sont capables de manipuler les portables. Donc, il faut exploiter l'Internet qui existe aujourd'hui, les réseaux sociaux, sociaux, pour essayer de concevoir des programmes adaptés à ces réseaux-là, parce que les enfants seront appelés à pouvoir les utiliser. Et que les enfants puissent être en contact avec leur direction scolaire, que les directions scolaires soient en contact avec quelques élèves, quelques parents. Pas déborder comme on le faisait en temps normal, en prenant 40, 50, même 100 élèves. Non. Convoquer les parents, leur dire que à tour de rôle qu'ils passent à l'école et que l'école leur donne peut-être le numéro d'appel, etc. Tout ça pour que le programme puisse être adapté à ce numéro et pour que les écoles entrent en contact avec ces enfants-là à travers les réseaux sociaux.
Il y a évidemment déjà des écoles qui ont créé des groupes WhatsApp et ils envoient les devoirs, les parents téléchargent, bon, ils travaillent avec les enfants et ils renvoient.
Exact. Oui. C'est ça. Facebook, WhatsApp, les enfants sont même plus expérimentés que nous qui sommes vieux pour l'utilisation de ces réseaux sociaux-là.
D'accord, donc, restez en ligne, ouais. On va accueillir Safari depuis Iga Barrière, en Ituri et Belbiche de Kolwezi dans le Lualaba. Safari, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour aussi à l'éditeur.
Quelle est votre question, Safari?
Ok. Monsieur le journaliste, quand je vois bien, ça ne va vraiment pas marcher avec ce qu'on appelle, je ne sais pas, radio, école radio. C'est ça, non, monsieur le journaliste?
Oui, oui, la radio école qui va bientôt commencer sur Okapi.
En fait, ça ne va pas marcher car la radio telle qu'elle est là, ce n'est même pas quelque chose qui peut être écouté par un enfant de première année école primaire. Alors moi, je dirais ceci à monsieur le journaliste. Comme il reste encore deux mois,
oui.
plus deux mois de grandes vacances, quatre mois, qu'on puisse commencer les activités, même si ce n'est pas maintenant qu'on commence au début de cinquième mois ou bien sixième mois là-bas, et continuer avec la grande vacance.
Donc, là, vous proposez que les enseignements reprennent début juin?
Je peux souhaiter au moins depuis juin et puis continuer avec la grande vacance. Comme les élèves sont déjà
Donc qu'il n'y ait pas de vacances cette année, c'est ça?
Ouais, qu'il n'y ait pas de vacances. Quand les vacances, ça aussi prime, on occupe ça avec les activités scolaires.
D'accord, merci. Belbiche de Colouésie, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Bienvenue, quelle est votre question?
Merci. Avant de poser mes deux petites questions, j'ai un raisonnement qui se base sur deux hypothèses. À mon avis, Jody, l'État congolais peut voir, dans la mesure du possible, comment récupérer après le confinement cette année scolaire en cours, surtout que la classe télévisée ne concerne pas toute l'étendue de la République démocratique du Congo. D'abord, aujourd'hui, qu'est-ce que je dis? Hier, j'ai suivi le ministre, il a parlé d'une application Vodaéthique qui concernait les élèves. Mais oubliant que la RDC a 26 provinces et plusieurs territoires, voire même le milieu rural. Mais comment y parvenir dans tous ces recoins et coins de la RDC? Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, l'État congolais doit récupérer tous les élèves dans les mesures des possibles après le confinement, soit autorisé aux 21 provinces qui ne sont pas touchées au Covid-19 et reprendre autoriser aussi les 5 provinces avec des mesures préventives après. Maintenant, après qui concerne mes deux petites questions, je demanderai à l'invité de me dire d'abord comment récupérer les élèves des milieux ruraux par rapport à la classe télévisée. Comment est-ce qu'on peut récupérer tous ces élèves des milieux ruraux?
Il a déjà répondu à cette question.
Qu'est-ce qu'un élève?
Oui, il a déjà répondu à cette question. On est en train de préparer des modules, des programmes à leur intention. L'invité l'a dit tout à l'heure.
Voilà. Et aussi la deuxième, quel élève du milieu rural peut-être pour profiter de cette classe télévisée? Ce sont là mes deux petites questions.
Merci, Belbiche. Faustin Kabamba, vous êtes à Demba. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
Quelle est votre question?
Ouais, j'ai suivi religieusement les intervenants. C'est un débat des scientifiques, j'ai aimé ça. Mais en les entendre parler, personne n'a parlé de conditions des enseignants. Hein, par rapport à ces enseignants qui, en ce moment, certains ne sont pas payés, qu'on appelle les NU, ils ne sont pas payés depuis le mois de septembre. Alors, quand on demande qu'il faut sauver l'année, ils vont rentrer. Ça veut dire que ces enseignants vont travailler comme ça toute l'année bénévolement, parce que jusqu'à ce niveau... rien n'est fait de la part de notre gouvernement par rapport à cette catégorie d'enseignants qui sont dans ce pays. Une autre question que je devais poser à l'invité parce que j'ai aimé les débats. Par rapport à certains enfants, hein, on a des enfants de l'école primaire. Peut-être vous pensez que lorsqu'on est dans la ville, les enfants de la ville s'adaptent facilement que ceux qui sont dans des villages où des conditions de vie sont précaires. Alors, pour les enfants qui sont au village, comment est-ce qu'ils vont suivre directement ces cours? Et surtout les enfants de l'école primaire, nous sommes dans des classes comme 4e ou 3e primaire où les enfants ne
s'adaptent pas. Oui, par rapport à cette question-là, l'invité a déjà donné la réponse. Il y a des programmes qui sont en train d'être préparés pour les enfants qui sont dans ces milieux-là. Merci. Pierrot.
Monsieur Jody, c'est oui. Parce qu'aussi il y a certains cours dans nos langues, comme moi je suis au Kassai Central, c'est en Chiluba par exemple. Alors je me demande comment on va donner ces leçons-là à partir de Kinshasa. Pourtant, les enfants sont dans les Kassai, au Kassai où on ne parle pas, où on parle couramment Chiluba, et ces enfants étudient les cours de Chiluba. C'est ça ma préoccupation.
Merci. Pierrot, vous êtes à Kambove. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à l'invité.
On vous écoute, Pierrot.
Oui, merci. Je vais d'abord profiter de votre invitation pour lancer un petit circuit dans la maman de passer avec mes préoccupations. Dans le milieu de tout, j'invite monsieur Jody. Je vous dis, le quartier dont même je suis, il y a des flashs, c'est 3 mois là, il n'y a pas même de l'eau. Je demande aussi à même aux autorités locales.
Pierrot, aujourd'hui, on ne parle pas de problème d'eau. Merci d'avoir appelé. Alors, M. Rombo, vous avez la parole.
Merci beaucoup, M. le journaliste. Je vois les auditeurs, ils reviennent sur l'enseignement à distance. Oui, oui, c'est vrai. Nous avons dit, au niveau du ministère, nous utilisons plusieurs batteries pour encadrer les enfants en cette période ici où ils sont en famille, oui. Il y a les cours télévisés, il y a les recours à l'internet notamment, et j'ai dit effectivement qu'il y a des programmes, il y a des cahiers qui sont en train d'être préparés, qui seront mis à la disposition de responsables donc de l'éducation en province, les provèdes et les sous-provèdes, aller-retour. Donc, ils vont convoquer donc le chef d'établissement pour encadrer les enfants qui sont à l'arrière.
Dans les milieux ruraux.
Oui, c'est vrai. Donc, il faut conjuguer, donc, il faut mettre en symbiose toutes ces différentes batteries pour encadrer les enfants, pour qu'ils ne perdent pas effectivement cet élan-là des formations, oui. Donc, en sus donc de tout ce que le ministère est en train de démonter, j'ai rappelé tout à l'heure que on a pris contact, le ministre a pris contact avec l'équipe technique pour voir dans quelle mesure on peut effectivement donc parachever l'année scolaire dans des zones qui ne sont pas concernées par Covid pour l'instant.
Oui.
Et même dans des provinces où on a identifié donc les cas des Covid-19, il y a des territoires, il y a certains territoires qui ne sont même pas concernés. Donc je pense qu'il faut réfléchir d'une manière holistique, d'une manière globale, oui.
Penser peut-être reprendre les enseignants tout en respectant les mesures barrières.
Tout à tout, bien sûr. Ça, c'est la conditionnalité.
Bien sûr.
Il faut respecter les mesures barrières. Alors,
Safari, depuis Gabarrière, dit il faut peut-être reprendre les enseignements début juin. Il n'y aura pas de grandes vacances. Comme ça, on va rattraper les temps perdus.
Oui, ceci rentre dans les cadres des calendriers scolaires réaménagés. Dès qu'on a l'autorisation de l'autorité supérieure, et automatiquement, le ministère va publier un calendrier scolaire réaménagé. Et dans ces calendriers, lorsqu'on parle des calendriers scolaires, il y a le jour des classes, des vacances éventuellement. Donc le calendrier sera réménagé et le calendrier est toujours publié. Il sera rendu public. Oui. Donc on attend effectivement donc les autorités, les autorisations des autorités compétentes. Oui.
Alors Faustin de Kabamba parlait des nouvelles unités cette année qui sont pas payées et c'est l'année même où la gratuité, on a commencé à expérimenter la gratuité de l'enseignement, voilà, Covid-19 vient perturber tout, les nouvelles unités ne sont pas payées, qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce sujet?
Voilà, merci beaucoup, c'est là où effectivement, donc je voulais en profiter pour, en tant que citoyen, pour remercier le chef de l'État qui a vraiment fourni des efforts considérables, depuis le mois de septembre jusqu'à aujourd'hui. Nous comptabilisons plus de 140 000 enseignants qui ont été payés.
140 000.
Les NU. Donc les enseignants, c'est pas dans le paquet, oui, dans l'ensemble. 140 000 qui étaient payés.
Oui.
Et il y a eu un accroissement considérable de leurs salaires. Et aussi, donc, un accroissement considérable de frais de fonctionnement qui sont alloués aux écoles primaires, qui sont concernées par la gratuité, et au bureau gestionnaire, ceux-là qui gèrent au quotidien ces écoles-là. Alors la problématique, parce que c'est une problématique des enseignants NU, elle est en étude, parce que le chef de l'État avait donné des instructions claires. La première étape a consisté à les identifier. Cette étape-là, il y a des équipes qui sont descendues en province, elles ont été identifiées. Il y a un travail qui a été fait ici au niveau national, il s'agissait effectivement donc de faire le toilettage de toutes ces données collectées et les dossiers, sera soumis donc au gouvernement pour une décision éventuelle. Donc c'est un dossier qui est sur la table donc de l'autorité et le gouvernement va y apporter une solution durable. On les a pas oubliés. C'est un héritage assez douloureux parce que depuis pratiquement des années 90, il y a eu un sérieux problème en termes de recrutement des enseignants et de création des écoles. Vous vous rappelez de la fameuse question des motivations des enseignants. Oui, des motivations des enseignants qui a eu toutes les conséquences possibles. Donc c'est ici, je voudrais donc réitérer donc le remerciement donc du chef de l'État qui a épongé un nombre important des enseignants non payés. Donc c'était
et pour les autres, le processus est toujours
le processus est en cours. Pas c'est un processus.
Voilà.
N'oubliez
pas. Monsieur Théophile Mompalois, vous êtes en ligne, vous avez suivi les préoccupations des auditeurs, qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Exact. Bon, en ce qui concerne les nouvelles unités, je crois que le collègue a bien réagi. Il y a des efforts qui sont fournis à ce stade-là. Mais pour ce qui est de, par exemple, des retards concernant, disons, la présence de ce Covid par rapport à l'évolution scolaire, bon, je crois qu'on peut se référer un peu à ce qui s'est passé lors des élections la fois dernière. D'après organiser des élections, il y a des provinces qui n'ont pas participer à ces élections parce qu'il y avait des troubles. Exactement un peu ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid-19. Les provinces qui ne sont pas affectées au même titre que les autres. Alors, pour ces provinces-là, on peut reprendre les activités en prévoyant des mesures de sauvegarde, des barrières, on le dit, n'est-ce pas? C'est pas toutes les provinces qui sont concernées. Avec, heureusement, qu'on a défendu le mouvement comme ça se passe de va-et-vient entre la capitale et les autres provinces, eh bien, qu'on épargne ces provinces-là, qu'on les sécurise, qu'elles restent, qu'elles reprennent les activités et qu'elles sécurisent les enfants pour terminer les années en prenant des mesures, n'est-ce pas, barrières. Alors, je voulais dire ceci. Pour ces provinces qui sont quelque peu affectées, qu'on fasse compte ce qui s'est passé lors des élections. Eh bien, Yumbi n'a pas fait les élections comme Kinshasa. Beni, la même chose, mais après. Est-ce qu'ils n'ont pas participé aux élections? Ils l'ont fait. La même chose aujourd'hui pour les enfants. Les enfants de Kinshasa, plutôt de Kinshasa pour l'instant, évidemment, sont frappés. Eh bien, pour ces provinces qui ne sont pas touchées, je répète encore une fois, eh bien, qu'on puisse organiser les enseignements comme par le passé, ainsi de suite, sans pour autant pénaliser ces enfants, alors que la province est calme.
D'accord.
Voilà ce que je peux ajouter par rapport à ce que mon collègue a dit.
Bien. Que faut-il faire pour sauver l'année scolaire 2019-2020? Eh bien, la question a été au cœur de l'entretien de notre confrère Paul Richard Malengela de Mbandaka avec Monsieur François Mukadi Nkashama, coordonnateur provincial de la Coalition nationale de l'éducation pour tous et secrétaire provincial du CIECO section Équateur. Suivez.
Monsieur François Mukadi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelles sont les conséquences qui découlent de cette perturbation du calendrier scolaire, d'abord pour les enfants, pour les parents et aussi pour vous, les enseignants?
Oui, si nous commençons par les élèves, ils restent à la maison, ils perdent déjà les matières, ils n'ont plus ce goût, certains, de commencer déjà d'aller à l'école. Pour les parents, ça devient une casse-tête. Parce que les parents, oui, c'est un casse-tête. Parce que les parents ont souvent l'habitude, ils savent le matin, les enfants partent, ils rentrent un peu tardivement pour pouvoir les occuper quelques temps après. Ils dorment le lendemain matin. Mais maintenant, ils sont tous à la maison. Vous voyez, ça dérange plus. Et pour nous, les enseignants, d'abord, on s'attendait à la paye des NU. C'est un problème très grave. Nous savons que le président avait décidé sur ce, nous tous nous attendions à ça, mais brusquement, c'est cassé parce que il y a le Covid-19. Et nous aussi, les enseignants, nous semblons perdre notre réflexe de préparer les cours, et ainsi de suite, et aller à l'école. Vous voyez, ça embrouille un peu et les enseignants, et les parents, et les enfants.
Comment est-ce que vous, par exemple, comme CONEPT, vous procédez pour aider à l'encadrement des enfants pendant cette période d'état d'urgence?
Oui, ça devient un peu très difficile. Nous avons suivi l'enseignement en ligne.
Voilà. Préconisé par le ministre national de l'EPST.
L'EPST. Mais c'est, nous, on a vu que c'est vraiment du théâtre. Parce que si on peut le faire, c'est uniquement au niveau de Kinshasa. Et ce ne sont pas tous les enfants qui doivent accéder. Peut-être on peut parler des enfants des ministres, des députés, ainsi de suite. Même si nous prenons la ville de Kinshasa, vous allez trouver que certaines communes n'ont pas du courant. Mais vous voyez, c'est très difficile. Même nous ici, c'est vraiment très très difficile pour que nous puissions raisonner ou décider sur ce. Mais est-il que pour que nous puissions y arriver, la première des choses, c'est maîtriser cette pandémie. Si la pandémie est maîtrisée, maintenant, il y a lieu que nous puissions réfléchir comment récupérer ces enfants.
Oui, ça c'est au niveau national, mais vous, au niveau de la CONEPT par exemple, ou au niveau du CIECO, comment faites-vous pour encadrer vos affiliés, pour encadrer les enfants en cette période?
Mais c'est très très difficile, parce que nous parlons de confinement. Mais comment est-ce qu'on peut les encadrer? Vous voyez, à Kinshasa, si on a donné un peu cette idée...
Mais maintenant, on est en train de parler de télétravail, on peut travailler à distance.
C'est difficile. Pour même travailler en distance, il faut du courant. Mais ici, nous, on en aura où? La capitale, Kinshasa, en manque. A fortiori, nous, de la province, ça devient très, très difficile. Donc, les encadrer, c'est dur. On a essayé d'échanger, même avec l'IPP et les autres, mais c'est très difficile. Et surtout, qu'on ne veut pas que les gens puissent se réunir au-delà de 20 personnes. Vous voyez? C'est très difficile. Et comment le voir, avec quels moyens, tout ça, c'est vraiment difficile.
Si nous venons à notre préoccupation du jour, que faut-il faire pour réussir cette année scolaire qui est perturbée par la pandémie du Covid-19?
C'est ce que j'ai dit. Penser à sauvegarder l'année, il faut d'abord penser comment élaguer cette pandémie. Sans ça, c'est difficile.
Mais comme vous le savez, c'est une lutte multisectorielle. Tout le monde doit y participer. Votre participation, alors?
Exactement, notre participation, c'est ce que nous venons de faire ici, la sensibilisation. Nous avons demandé aux enseignants de respecter toutes les procédures qu'on a données par le gouvernement.
Les gestes barrières.
Exactement. Se laver les mains régulièrement, à chaque instant. Bon, rester à une distance de 1 mètre. Tout ça. C'est ce que nous ne faisons que répéter. Et nous avons dans les radios, ce n'est pas seulement nous les enseignants, et c'est toute la population qui le dit. S'il y a ça, en tout cas, c'est en ce moment-là qu'on peut songer comment sauvegarder l'année. Mais de toutes les façons, je sais que bon, on ne peut pas encore désespérer, parce que jusque-là, j'ai dit, il n'y a que 8 jours que nous avons perdu, 8 jours, et nous avons les grandes vacances, nous avons les périodes des examens. On peut toujours revoir. Oui,
justement, quelle stratégie est-ce que vous pourriez proposer pour arriver à rattraper le temps perdu, donc?
Oui, normalement, c'est le gouvernement qui est l'organisateur de l'enseignement.
Vous êtes aussi partenaire, vous pouvez proposer.
Oui. Ce n'est pas seulement au gouvernement seul, il faut qu'il puisse s'associer avec les autres partenaires pour voir comment on peut modifier le calendrier scolaire. C'est simple. Je crois que ce n'est pas seulement cette année, il y a eu d'autres années, là où il y avait un peu des catastrophes, tout ça. Mais on a essayé de voir, les vacances, on réduit un peu. Voilà. Et puis nous avons 2 mois de grandes vacances. On peut toujours les réduire. On peut réduire même un mois et les autres on récupère, nous évoluons. Mais avant de songer à ça, c'est maîtriser, élaguer le coronavirus.
Donc c'est la condition sine qua non. Il faut d'abord arriver à mettre fin à la pandémie du coronavirus.
Exactement. On ne peut songer à ça que si cela est maîtrisé. Je vous dis, regardez ailleurs. 1000 personnes qui meurent par jour. Si cela pouvait arriver ici, qui peut songer à aller à l'école? Heureusement que nous faisons un effort pour que ça ne puisse pas arriver chez nous. Continuons d'abord avec ça. Lorsqu'on verra que c'est vraiment maîtrisé, il y a possibilité d'évoluer, on peut le faire. Préconiser autrement, non. Il n'y a que le changement des calendriers. Je vous dis qu'il y a 8 jours que nous avons perdu. Il y a de l'espoir que nous puissions récupérer. Parce qu'il y a encore du temps. Il y a les vacances et les autres, les examens. On peut toujours écourter et puis on modifie le calendrier scolaire.
Est-ce qu'on ne peut pas craindre une année blanche comme redoutent certains parents ou bien certains enfants?
Bon, en fait, nous tous, nous sommes en train de craindre à supposer que cette pandémie continue. Parce qu'avant, on nous a donné le moratoire à fixer 1 mois au moment où il n'y avait que 2 cas. De personnes qui étaient décédées. Maintenant, on parle de 260, combien tout ça? Ça ne fait que...
plus de
300 maintenant, vous voyez.
À ce jour, 359.
Voilà, 359, vous voyez. Quand c'était 2 personnes, on a mis 1 mois. Bon, maintenant 359. Ça fait la peur. Nous sommes pour que les cours reprennent. Mais on ne peut pas reprendre les cours dans de telles conditions. Même les enfants et les enseignants, personne ne peut mieux suivre les cours dans de telles conditions.
Vous avez soulevé aussi la problématique des enseignants nouvelle unité NU. Cette catégorie, elle est prête à reprendre directement service dès reprise des cours?
Oui, et vous avez vu, tout juste à la rentrée scolaire, c'était difficile. C'est presque tout le monde, la catégorie de ces enseignants, ont dit ils ne reprennent pas, mais nous les avons conscientisés. Parce que nous-mêmes, nous étions personnellement à Kinshasa. Nous avons participé dans toutes ces activités qui étaient là. Nous les avons confirmés pour dire que au mois d'avril, tout le monde sera payé. Et je sais que toutes les batteries étaient mises à jour pour que ces enseignants soient payés. Mais malheureusement, voilà ce qui est arrivé. Même nous aussi, on se demandait, est-ce qu'au mois d'avril, ils seront réellement payés? Mais je sais que si la pandémie est écartée et que nous reprenons, nous allons toujours continuer à les sensibiliser et demander au gouvernement de les payer. Normalement, au mois d'avril, ici, ils devaient être payés. Maintenant, ça devient difficile, nous tous. Tantôt, nous regardons la pandémie, tantôt le paiement. Bon, heureusement, malheureusement, nous sommes à la maison. Mais il faut que le gouvernement puisse songer à ça. Dès que nous reprenons, il faut que cette catégorie d'enseignants soit payée.
François Moukadi, coordonnateur provincial de la CONEPT et secrétaire exécutif provincial de CIECO Équateur, Radio Okapi vous dit merci.
Merci beaucoup. Radio Okapi.
Ambandaka, Okapi, sur 103 FM.
Bien, merci Paul-Richard Malengela pour cette interview. Que faire pour sauver l'année scolaire 2019-2020? Monsieur Rombo Makadi est conseiller chargé des provinces et suivi des normes au ministère de l'EPST. Vous avez suivi cet entretien, votre réaction?
Merci, j'ai suivi le partenaire. On a l'habitude de les appeler les partenaires, les syndicalistes.
Oui.
Ce sont des partenaires donc du gouvernement, du ministère. Et comme vous savez, le mode de gestion de notre système éducatif, c'est les partenariats. Donc l'État ne gère pas seul le système éducatif, mais il associe des partenaires, notamment les syndicalistes. Alors, j'ai très bien suivi donc les commentaires donc de monsieur François. Il est du système, il connaît les réalités. J'ai apprécié, mais lorsqu'il parle des cours à distance, l'enseignement à distance, il parle d'un théâtre.
Mais qualifié de théâtre.
Oui, je trouve quand même que c'est trop excessif. C'est quand même excessif. Je parlais que ce sont des variantes. Donc le ministère a mis sous pied plusieurs batteries pour atteindre les enfants pendant cette période. Donc l'enseignement à distance est une des variantes. Et tout à l'heure là, je l'ai dit tout au début que le ministère a réuni donc.
Bien que la couverture n'est pas totale.
Oui, ne couvre pas toute la.
C'est beaucoup plus pour les centres urbains. Mais pour les autres, il y a des programmes.
Il y a des programmes, oui.
Qui sont en train d'être élaborés.
Élaborés, oui, tout à fait, oui. L'être élaboré. Donc pour le NU, il a bien réfléchi parce que c'est un partenaire. C'est avec lui, nous réfléchissons d'ailleurs à haute voix autour, effectivement, donc, de tous les problèmes qui se posent au niveau du sous-secteur de l'enseignement primaire et secondaire.
Bien. Frédéric nous appelle depuis Ouvira, dans le sud Kivu. Bonjour.
Bonjour, bonjour, monsieur journaliste, monsieur Chier.
Bienvenue, Frédéric. C'est jeudi. Quelle est votre question?
Bon, ma préoccupation, d'abord, je suis directeur aussi de l'école primaire Trois Quisito Academy, mais présentement à Ouvira. Mais je suis avec beaucoup d'attention cette thématique-là sur la reprise éventuelle, n'est-ce pas, des cours. Je suis tout à fait d'accord à ce que les écoles reprennent selon les calendriers révisés dans des provinces non touchées par cette pandémie. Néanmoins, je m'oppose à l'enseignement à distance, étant donné qu'il n'est pas profitable, n'est-ce pas, à tous les enfants, car ce sera au détriment de ceux de la périphérie. Et il va falloir que les autorités rapprochent d'abord tous les acteurs pédagogiques se trouvant tant hors pays que loin des provinces d'origine, afin d'offrir cette opportunité à tout le monde. Sans oublier de songer au dernier palier salarial auquel tous les enseignants aspirent, pour permettre, n'est-ce pas, à ce que l'école évolue sans problème.
Bien, merci Monsieur Frédéric depuis Ouvira. Bernard, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Journaliste.
Bienvenue Bernard, quelle est votre question?
Oui, je viens de suivre cette émission, ça passe très bien, c'est vraiment scientifique. Mais il y a une chose que je voudrais dire, c'est que les enseignements, parce que le secrétaire général est en train de mettre l'accent sur les contrées qui n'ont pas connu les problèmes des pandémies, mais je pense qu'ici à Kinshasa, cela va de pair, parce que il y a des communes qui ne sont pas concernées par la maladie. Ces enseignements, si ça reprend, bien entendu, on peut considérer certaines des communes qui n'ont pas été frappées et qui peuvent aussi reprendre des cours. En ce qui concerne les enseignements à distance, je pense que ça, franchement, c'est du mirage. Ça ne peut pas tenir, connaissant bien entendu les réalités de notre pays. Donc là, il faut mettre
Bernard, pourquoi ça va pas marcher? Au lieu de laisser les enfants oisifs à la maison, ils ne font rien, pourquoi ne pas organiser des programmes comme ça pour les occuper?
Oui. C'est ce que bon nombre d'auditeurs ont déjà dit. C'est bien beau, mais ça ne tiendra pas.
Moi, parce que ça s'organise déjà.
Dans le fin fond, ces histoires n'existaient pas. Et puis quand on nous demande de faire appel aux parents, c'est n'importe quoi, ça ne va pas tenir. Donc il faut, franchement, on peut toujours le faire pour essayer de donner l'espoir à certains qui croient que nous verserons dans la blanche. Mais on peut toujours se rendre à l'évidence que ça ne peut pas marcher. Mais du moins, pour ce qui est de la pandémie, ça va passer, franchement, ça va passer au mois de mai ici. On peut circonscrire certains mécanismes qui doivent nous permettre de pouvoir reprendre les enseignements.
Bien, merci.
Oui. Pour mettre l'accent sur l'hygiène au niveau de l'école, nous avons déjà commencé à le faire. Nous avons déjà acheté beaucoup de seaux pour que les enfants se lavent les mains et tout ça. On peut toujours continuer dans ce sens pour sauver les 1 mois et demi qui restent avec...
Bernard, en passant, l'hygiène dans les écoles, il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas des toilettes hygiéniques et qui exposent souvent les enfants. J'espère que ce n'est pas le cas pour votre école.
Non, ce n'est pas le cas pour mon école. Mais pour les autres, mais ce n'est pas normal. Comment est-ce qu'on peut trouver une école sans toilettes? Ça, on peut, non seulement la pandémie coronavirus ici, les enfants peuvent être susceptibles d'attraper des maladies diverses. Je crois que là, ce n'est pas le problème, ce n'est pas notre problème, ça, c'est le problème de l'État qui doit structurer, organiser les écoles de telle manière que les choses se déroulent normalement. Ça, c'est un problème particulier, franchement.
Merci Bernard de Kinshasa. Achille, vous êtes également Akin, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, je suis le débat. Je voudrais juste demander à l'invité qu'est-ce qu'ils ont prévu pour les écoles privées. Parce que vous avez parlé des NP, maintenant dans des écoles privées, les promoteurs ne veulent pas payer dans leurs enseignants. Qu'est-ce que vous en dites?
Merci. Théophile Mumpalwa, vous avez la parole.
Bon, il y a eu des contributions par rapport au problème tel qu'il se passe. Je voudrais répondre au dernier intervenant de tout à l'heure.
Oui.
Bon, pour ce qui concerne les écoles privées, vous le dites bien, c'est privé. Pour l'instant, il y a des problèmes liés au confinement, etc. C'est comme les locataires. On a demandé aux locataires de bien dialoguer avec les propriétaires.
Avec les bailleurs.
Vous devez faire la même chose en ce qui concerne le paiement. Donc, dialoguez avec vos promoteurs d'école pour trouver les issues. Mais ce n'est pas facile, étant donné la présence de confinement. Donc, le problème, c'est de résoudre ce problème de confinement. Dès qu'il sera résolu, eh bien, votre problème trouvera sa solution. Donc, ne soyez pas inquiets, ne soyez pas pressés. Ces difficultés-là ne vous concernent pas en tant qu'enseignant seulement, ça concerne aussi les propriétaires des écoles. Bon, le reste, je pense que le collègue peut intervenir. En ce qui concerne les conséquences, c'est bien dit, les conséquences par rapport à la situation actuelle. Bon, il y a cette mesure a peut-être trouvé certains collègues de façon surprenante. Ils ne s'y attendaient pas, la fameuse décision concernant l'état d'urgence sanitaire, ainsi de suite. Eh bien, il y a des collègues qui n'ont pas pris soin de pouvoir amener la documentation chez eux à la maison. Mais heureusement que cet état d'urgence n'est pas tout à fait ferme, n'est pas absolu. C'est-à-dire, on peut toujours se déplacer pour certains coins, par exemple, en dehors de la commune de la Gombe, et on peut aller à l'école, n'est-ce pas, retrouver sa documentation pour venir travailler à la maison.
Faut-il, par exemple, Bernard a dit, comme à Kinshasa, il n'y a que la commune de la Gombe qui est l'épicentre, oui. Il y a peut-être Kitambo aussi, mais les autres communes peuvent reprendre des enseignements d'après lui.
Oui, absolument, absolument, mais en respectant les mesures barrières.
D'accord, monsieur Rombo, qu'est-ce que vous dites par rapport à cette question-là?
Oui, par rapport à cette question, je pense que nous nous sommes référés donc au comité technique. C'est les comités techniques effectivement qui va circonscrire donc les zones où effectivement on peut reprendre les enseignements. Je pense que c'est les comités techniques. Oui. Alors parce que nous avons soumis les problèmes d'une manière globale. Et c'est les comités techniques qui peuvent
faciliter. C'est la réponse donc, qui va examiner.
Voilà. Oui. Oui. Alors par rapport donc à la préoccupation de Monsieur Achille pour les écoles privées, c'est vrai. L'association des écoles privées c'est un grand partenaire donc du ministère. Il faut reconnaître que plus de 50% effectivement des écoles qui fonctionnent à Kinshasa particulièrement donc sont des écoles privées. Et monsieur Mumpalwa, il a répondu c'est vrai, l'objectif, il faudrait que les enseignants donc de ces écoles privées puissent négocier avec
les promoteurs
oui, pour trouver donc un compromis, parce que eux, ils ne relèvent pas du statut donc des agents de l'État, parce qu'ils ne sont pas donc de la fonction publique. Mais eux, effectivement, donc, et c'est un contrat de travail. qu'ils ont signé avec les promoteurs.
Avec les promoteurs de ces écoles-là. Que faire pour sauver l'année scolaire 2019-2020? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service. Bientôt, nous allons entrer dans la deuxième partie. Appelez déjà pour participer au 081-890-63-94.
Ngoma ya Kwetu. Une vitrine de la musique traditionnelle folklorique du patrimoine sur Radio Okapi, la radio de toutes les musiques. Prenez rendez-vous tous les mardis et mercredis à 15h30, heure de Kinshasa. La culture, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu.
Va me glisser juste avant que les portes ne se referment. Elle me dit quel étage et sa voix me fait quitter la terre ferme. Alors, les chiffres dansent, tout se mélange. Je suis en tête.
Les activités scolaires en RDC ont été suspendues il y a plus d'un mois pour éviter la propagation du coronavirus. L'état d'urgence sanitaire décrété va encore être prolongé de 4 semaines. De nombreuses personnes craignent une année blanche. Le ministre de l'EPST n'est pas de cet avis. Quels sont les scénarios à envisager pour rattraper le temps perdu et sauver ainsi l'année scolaire 2019-2020? On en parle ce vendredi 24 avril dans Okapi Service. Pour participer, appelez au 081-890-63-94. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Bienvenue également sur la page Facebook d'Okapi Service. Toujours à votre service.
Bien.
bien, on en parlait déjà. Que faire pour sauver l'année scolaire 2019-2020? Bienvenue dans cette deuxième partie d'Okapi Service New Look. Nous avons dans ce studio Monsieur Rombo Makadi. Il est conseiller chargé des provinces et suivi des normes au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Rombo, qu'il y a plusieurs scénarios qui sont envisagés, mais le calendrier est en train d'être réaménagé pour que les occuper les enfants même pendant la période des vacances. Ça, c'est la première chose.
Mais en fait, oui, ne sont plus pendant la période des vacances. En principe, les cours devaient reprendre depuis, je pense, le 22. Bon, là, nous sommes déjà au-delà de la période des vacances. C'est-à-dire, il y a des programmes qui sont en train d'être montés et d'autres qui sont déjà en cours de diffusion.
Donc, je parlais des grandes vacances. Généralement, ça intervient
au mois de juillet. Oui.
De juillet, voilà. Tout à donc, fait, c'est, oui. C'est, je voulais dire tout simplement que peut-être qu'il n'y aura pas des grandes vacances. Les enfants vont continuer à étudier.
Oui, nous sommes dans une période de force majeure, comme vous le savez. Donc, devant cette situation de force majeure, lorsque les autorités auront accordé effectivement une autorisation, je parle sous forme d'hypothèse, pour réaménager les calendriers scolaires. Je pense que les calendriers réaménagés sera diffusé et je pense qu'une partie aussi des grandes vacances.
Mais il n'y aura pas d'année blanche.
Amputée.
Il n'y aura pas d'année blanche, c'est qui est sûr. Voilà, on va accueillir les auditeurs Eric Chama de Kinshasa, Dieudonné de Bounia et Jérémy de Lubumbashi. Eric Chama, bonjour.
Bonjour Monsieur Jordi.
Quelle est votre préoccupation?
Bien, je suis tellement ravi de parler aussi pour l'émission avec les sujets en question. Elle va aimer et je suis. Est-ce qu'il y a quelque chose, Monsieur Jordi? Le fait que les programmes télévisés ne sont pas conformes à des matières enseignées dans les écoles. Donc, la suspension des activités scolaires et académiques est une mesure préventive à la pandémie du coronavirus. D'ailleurs, Monsieur Jordi, je signale que dans ma page Facebook, je suis auteur écrivain Eric Chama, j'ai commencé déjà à sensibiliser et aussi à enseigner quelque chose sur chaque leçon par jour.
Bien que vous êtes Eric, vous êtes enseignant dans quelle école?
Non, je suis juste un simple étudiant et aussi auteur écrivain. C'est-à-dire, j'ai commencé à sensibiliser encore les amis qui ont tellement aimé la page. Et souvent, je lance chaque fois ou chaque jour une leçon pour leur aussi faire cela. Mais c'est ma propre initiative, ce n'est pas que le gouvernement, non. Ah bon, on peut aussi relancer l'enseignement hein, dans les milieux ruraux. D'ailleurs, une simple radio est difficile à retrouver dans des milliers de chaînes radio ou télévisées, monsieur, je vous dis. Donc moi, je considérais que le gouvernement seulement accepte la reprise dans des provinces qui ne sont pas encore touchées par la pandémie. C'est plus ou moins 22 à 23 provinces qui ne sont pas encore touchées. Mais sinon, croyez-vous que la question que je voulais poser à l'invité alors, est-ce que l'invité, vous pouvez croire que les parents de tous les élèves ont des postes télévisaires chez eux? Il faut entamer les vacances de fin d'année au lieu de bailler comme ça les élèves étudiants. En fait, je bénis du temps, mais aujourd'hui.
Merci Dieudonné. Pardon, merci Eric Chama de Kinshasa. On va donner la parole à Dieudonné de Bounia. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Quelle est votre préoccupation, Dieudonné?
Merci, monsieur le journaliste. En fait, par rapport à l'enseignement qui sera dirigé par télé, monsieur le journaliste, je vois que ça n'ira pas à voir notre Congo.
Alors, qu'est-ce que vous proposez à la place? Qu'est-ce que vous proposez?
Ma proposition est la suivante. Au lieu de créer des choses comme ça, on attend seulement la reprise qui sera effective. Ça peut aussi permettre aux enseignants des écoles privées, parce que même si l'autre venait de dire qu'on va voir des choses comme ça, je sais notre Congo, ça n'ira même pas. Qu'on attend seulement la reprise effective pour que mes frères qui enseignent aux écoles privées aient aussi quelque chose. Par exemple, ici chez nous, à Ituri, nous sommes en ville, les choses sont trop... Comment est-ce que ces enseignants-là peuvent vivre? En tout cas, là, vraiment, par rapport à l'enseignement qui sera diffusé à la télé, ça n'ira pas. En plus, à côté de...
Non, l'enseignement ne sera pas diffusé à la télévision. On a dit que c'est pendant cette période de confinement, au lieu de laisser les enfants oisifs à ne rien faire, on peut les occuper en donnant des enseignements, en utilisant la télévision, la radio, l'internet et d'autres moyens.
sera un coût supplémentaire pour le gouvernement ou sur la caisse nationale pour rien. Qu'on attend seulement le temps. D'ailleurs, à cet âge, si les enfants jouent, ils ne savent même pas ce qui se passe. Avec ça, c'est déjà détente pour eux. Ils se détendent déjà, ces enfants.
D'accord. Merci. L'invité va répondre tout à l'heure. Jérémy de Lubumbashi, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jordi, et bonjour également à notre invité. Je pense que sauver cette année n'est pas magie, n'est pas sorcier, parce que il y a encore du temps et rien n'est encore perdu. Donc, ça dit, il suffit tout simplement que les gens se mettent ensemble. Parce que nous sommes en présence de trois tableaux. Nous avons d'abord le premier tableau, c'est là où la ville qui constitue le plus centre, donc c'est-à-dire là où c'est plus ciblé, c'est la ville de Kinshasa. Et il y a d'autres provinces de l'Est. Moi, je ne pense pas que pour ces 5 provinces sur 26, qu'on puisse sacrifier toute une année. Ça, ce serait une manière de cracher sur les parents qui ont eu à fournir des efforts durant ces trois quarts de l'année. Il reste peu de choses, monsieur Jody, pour pouvoir terminer l'année. Je vous donne un exemple. Au niveau primaire, il reste pour les enfants pratiquement un mois et je sais pas et demi. Pour le niveau secondaire, il en est de même. Mais pour le niveau, au niveau des institutions supérieures et universitaires, je pense qu'on a l'habitude d'aligner les grands cours, les cours à grande pondération. Je pense que les professeurs ont eu à se déployer et ils ont fait déjà tout un semestre. Il ne reste pas grand-chose pour sacrifier cette année pour qu'elle soit déclarée une année blanche. Je pense qu'il faut que le ministère ayant en charge l'éducation s'y attelle de commun accord avec, je ne sais pas, les psychologues et voire même les pédagogues, et voire même les enseignants, les pratiquants, pour pouvoir, n'est-ce pas, de commun accord, trouver une voie de sortie parce que rien n'est encore perdu. Et pour ceux-là qui disent qu'il faut priver aux enfants des vacances, c'est antipédagogique. Donc, c'est-à-dire, les enfants ont droit aux vacances et il faut peut-être sacrifier un mois et parce que les enfants doivent, les enfants sont
Jérémy, les donc, enfants, pendant la période de confinement peut être considérée comme des vacances.
Pardon?
Alors, peut-on considérer cette période de confinement comme des vacances? Parce que les enfants sont à la maison. Bon.
Dans une autre alternative, oui, parce que quand vous regardez au jour d'aujourd'hui, psychologiquement, les enfants, leur morale est presque entamée. Vous voyez, les enfants sont pratiquement en vacances. Mais pour que les enfants reprennent cours, il faut que vraiment qu'on mette sur place des mécanismes adéquats, n'est-ce pas, pour pouvoir booster leur manière de raisonner. Parce que certains, c'est déjà les vacances totales. Et pour remettre les choses sur les voies, il faut vraiment du temps. Ce qu'il faut dire, qu'il faut que les enfants soient préparés pendant ces moments. Comment ils doivent être préparés? Chapeau bas pour les écoles qui ont eu à donner aux enfants des devoirs, des exercices, des révisions. Là, les enfants sont presque occupés. Je pense qu'ici, à Lubumbashi, il y a beaucoup d'écoles qui ont pu les devants, donc c'est-à-dire les enfants sont occupés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Malheur aux écoles qui n'ont pas eu à apprendre les choses aujourd'hui. Mais maintenant, là, monsieur, aujourd'hui, il y a aussi un problème. Les enseignants, par exemple, des écoles privées, quand nous marchons à gauche, à droite, il y a certaines écoles de seconde zone, qui n'ont pas payé qui n'ont pas payé les enseignants. Ça veut dire que les promoteurs ont eu à gérer l'argent, donc c'est-à-dire en défaveur des enseignants. Donc, je pense que il revient là, aux promoteurs.
Merci.
Je pense que
bon, merci beaucoup, Jérémy. Matata, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Bonjour, monsieur Jordi, bonjour à l'invité.
Quelle est votre question, rapidement?
Oui, monsieur Jordi, il est évident que les activités scolaires soient d'office suspendues par l'État congolais par rapport à la gravité de la maladie au pays. Quant à la question des prolongations des mois de l'état d'urgence sanitaire, c'est aussi vraiment une bonne chose, mais ce que je voulais aborder à présent, je demande au gouvernement congolais de pouvoir sauver cette année scolaire tout en payant les enseignants NI qui ont longtemps souffert et jusqu'à aujourd'hui, qui continuent vraiment à coupir. Je vous
assure. Oui, Matata, la question des NU a été déjà posée avant vous. Merci beaucoup de rappeler cela. On va donner la parole à Liévin de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Comment vous allez?
Très bien, merci, Liévin. Quelle est votre question?
Je voulais poser la question à l'invité. Est-ce que, je ne sais pas si c'est moi qui se trompe ou peut-être une confusion. Je sais qu'il y a deux ans ou une année passée, dans quelques villes, à Bandundu et à l'Équateur, à Kassai, je crois, ou bien à l'Est, on a fait les examens d'État en retard. Kinshasa et les autres provinces ont fait des examens d'État avant. Qu'est-ce qui manquerait que d'autres villages et provinces qui ne sont pas atteints de cette maladie peuvent continuer à étudier? Et Kinshasa et certaines provinces qui sont contaminées freinent un peu avec, retardent un peu avec les examens, les cours. Et les autres, quand ils commencent, ils vont finir à étudier. Alors, Kinshasa et les autres continuent après, sinon de faire traîner tout le monde comme ça, c'est inutile.
Merci, Liévin de Kinshasa. Monsieur Rombo Makadi, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je vois les compatriotes, ils sont très préoccupés par l'enseignement à distance. Ils doivent avoir les apaisements. Je l'ai dit, c'est une des possibilités que le ministère a mise en place pour occuper les enfants
pendant cette période de confinement.
Pendant cette période. Mmh. Et j'ai dit, alors, les spécialistes, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont à pied d'œuvre pour monter aussi des modules pour les enfants dans les pays qui ne sont pas là où les espaces ne sont pas couverts par l'Internet. Mmh. Je voudrais aussi réagir par rapport à M. Eric Chama, qui dit que ces enseignements-là ne sont pas conformes au programme. Je dis, le ministère travaille avec ses partenaires. Hein, avec ses partenaires, et tous ces modules, avant leur diffusion, sont censurés par le ministère. Il y a une direction spécialisée, direction de programmes scolaires et matériel didactique. Donc, cette direction doit d'abord, effectivement, censurer ces programmes avant leur diffusion. Et d'ailleurs, ils travaillent des concerts au niveau du ministère. Mmh. Et ces programmes sont montés au niveau du ministère. Donc, toute diffusion qui est autorisée par le ministère rentre, effectivement, dans le cadre du programme national.
Voilà.
Donc, et Monsieur Liévin, il est revenu sur les sessions spéciales, l'examen d'État qui était organisé à l'époque pour Yumbi et les Kassai centrales. Voilà, c'est ça d'ailleurs la démarche.
Pour cette année, c'était prévu quand les examens d'État?
C'est au courant du mois de... En fait, toutes les activités...
Il y a les examens d'État, le TENAFEP également.
Oui, c'est au courant de l'année scolaire.
Au courant de l'année, oui.
Au courant de l'année. Donc c'est avant le 2 juillet.
Donc, est-ce que ça sera toujours organisé cette année, malgré avec le calendrier réaménagé?
Oui, justement, c'est ça la démarche du ministère. Mmh. Oui.
Monsieur Théophile Montpalo, qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs?
Je crois que j'avais répondu à cette question quand j'ai comparé l'année scolaire aux élections de la fois passée. J'ai dit qu'à Yumbi et Beni ont fait leurs élections bien après. Et la même chose en ce qui concerne les examens d'État. Hein, s'il y a des problèmes dans une province, bon, on peut retarder justement le déroulement de ces examens d'État ou de ces TENAFET pour qu'après puisse faire ça. Ça ne dérange pas parce que les examinateurs, ceux qui construisent, qui élaborent les tests, etc., ne sont pas épuisés. Ils sont toujours présents. Ils peuvent toujours adapter les choses par rapport à la donne du jour, du moment. Donc voilà un peu pour répondre à notre ami Liévin. Il n'a pas à s'inquiéter, outre mesure, parce que le ministère est en train de suivre la situation de très près. Il n'y aura pas de problème. Voilà.
Alors Théophile Montpalo, beaucoup ne sont pas d'accord avec ce programme de les enseignements télévisés. Et Okapi aussi va lancer très bientôt Radio École dès ce dimanche. Bon, certains ne sont pas d'accord. Ils pensent qu'il y a beaucoup, le pays est vaste. Il y a certains milieux, il n'y a pas d'électricité, qui ne seront pas couverts. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces sujets? Ou quelles sont vos propositions?
C'est un peu un problème assez complexe, absolument. Ça, c'est réel. Ça serait plus facile dans un pays développé, un peu plus organisé, plus équipé que nous. Mais qu'à cela ne tienne, nous ne pouvons pas demeurer en reste. Il faut y aller, absolument. Il faut partir. Et après, on pourra faire l'évaluation pour voir qu'est-ce que ça a donné comme résultat. À ce moment-là, on pourra continuer ou bien revoir, retoucher le programme ou bien reformuler les choses autrement. Mais pour l'instant, on ne peut pas se décourager pour dire non, ça n'ira pas. On va essayer, il faut essayer. Nous allons essayer et puis après, on verra un peu le résultat. Et après ces résultats, on pourra soit généraliser les choses ou rectifier ce qu'il faudra rectifier. Mais on ne peut pas laisser tomber les bras pour dire non, on commence. Il faut commencer absolument. Voilà un peu ce que j'ai à dire à ce
On va faire un tour à Kisangani, on va retrouver notre confrère Jacques Moukonkole qui nous propose un reportage par rapport aux difficultés liées à la reprise des activités scolaires.
Okapi Service, à Kinshasa, en province et à travers le pays, découvrez vos problèmes grâce au reportage service.
Okapi. Pour le secrétaire exécutif provincial du CIECO, la reprise des activités scolaires ne dépend ni des acteurs éducatifs, ni des parents, ni des élèves, ni encore moins des autorités politiques. Tout est fonction de l'évolution de la maladie du coronavirus. Joël Itété.
À l'heure où nous sommes, c'est encore difficile d'envisager une solution, d'autant plus que les autorités sanitaires sont pour les mesures de barrière. Donc on doit garder les enfants à la maison, on doit se laver régulièrement les mains, ainsi de suite, tout ça, pour que la maladie ne puisse pas se répandre. Alors tant qu'on est encore à ces niveaux, il est difficile pour nous de pouvoir faire un pronostic sur l'année scolaire.
Pour éviter que l'année soit blanche, qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Oui, je ne crois pas à l'année blanche parce que c'est une situation généralisée. Comme ça affecte le monde entier, ça affecte tous les pays africains, ça affecte tout le pays. Moi, je vois pas comment on peut envisager l'année blanche. Nous pouvons plutôt nous soucier sur les enfants qui sont restés à la maison sans enseignement pendant une longue période. C'est ça peut-être le drame. Parce que pour nous, ce que nous proposons, c'est que qu'on continue à patienter. Lorsque la maladie atteindra son pic à Kinshasa, si les pronostics sont positifs, on peut commencer à libérer les provinces qui ne sont pas concernées par la maladie jusque-là. Et on doit réaménager les calendriers scolaires. S'il faut aller même jusqu'au mois de juillet ou même au mois d'août, on peut y aller parce que c'est une urgence nationale.
Ce point de vue est corroboré par les comités provinciaux de l'Association nationale des parents et élèves du Congo. Il faut absolument trouver une solution pour qu'on aboutisse à la clôture de cette année scolaire en beauté. Dominique Lekakua propose même une reprise en conformité avec le déconfinement progressif tout en renforçant les mesures de contrôle par rapport au mouvement des populations.
On ne sait pas ce que sera demain l'évolution de ce fameux Covid-19. Si ça va prendre effet ou comment? On ne sait pas, mais il faut qu'on étudie, qu'on arrive à proposer quelque chose qui est pratique. Comme dans partout ailleurs, on parle de déconfinement progressif. Par exemple, pour notre province, qui n'a pas connu un cas, la crainte peut être petite, bien que on ne sait pas ce que ça va venir d'ici et là. Mais on peut reprendre selon ce que dira le ministère et aussi en étant vigilant de pouvoir surveiller les entrées de la province, surtout qu'il y a déjà l'Ituri qui est atteint, le nord et les sites cuivres qui sont déjà atteints et ce sont des voisins de notre province. Et qu'il y a des accès faciles d'entrée et de sortie.
Du côté de l'inspection provinciale de l'enseignement, on propose également la possibilité de réaménager le calendrier scolaire qui tient compte du cumul de retards enregistrés pour rattraper le temps perdu. En attendant, l'on envisage la préparation des séquences didactiques à la radio et à la télévision. Cependant, le professeur Patrick Wenda Chisalou s'oppose à ces techniques d'enseignement à distance qui ne sont pas, selon lui, réalistes. Il propose tout simplement de prolonger l'année scolaire.
Tout cela exige certaines conditions que le pays n'a pas.
Quelles sont ces conditions, professeur?
La première condition, il faut avoir du courant en permanence. Deuxième solution, il faut avoir des appareils, c'est-à-dire un poste de radio ou un poste de télévision par chaque enfant qui étudie, parce que chaque enfant a son programme. Lorsqu'on donne les enseignements, l'enfant doit suivre son programme, il ne va pas dire non, j'attends, c'est le tour de tel, c'est le... Non, non, il faut en avoir. Troisième condition, est-ce qu'il y a des enseignants qui sont préparés pour réaliser des enseignements à distance? Quatrième condition, les enfants eux-mêmes qui doivent suivre les enseignements, sont-ils préparés à suivre un enseignement par radio, à suivre un enseignement par télévision? Tout cela pose énormément de problèmes. Notre pays n'est pas préparé. Ce qui est un peu possible... Si, par exemple, on ne parvient pas à prolonger l'année, la pandémie continue à faire des dégâts. Et si on veut récupérer l'année, voici ce que l'on peut faire. On utilise le système des préceptorats. Préceptorat qui est différent de répétitorat. Répétitorat, c'est cet enseignant que vous prenez qui vient répéter la matière que l'enfant a vue à l'école. C'est celui-là un répétiteur. Un précepteur, c'est quelqu'un qui connaît le programme de formation. Par exemple, on lui dit, cet enfant est en cinquième, il faut qu'il suive les enseignements propres à la classe de cinquième. Et cet enseignant vient donner cet enseignement ou ses cours, ses leçons. Et l'enfant est en train de suivre. Deux encore petits problèmes se dégagent de cette façon de voir les choses. C'est-à-dire, il faut que chaque famille soit en mesure de payer le précepteur. Deuxième problème, que l'État contrôle tout ce qui se passe dans les maisons. Voilà comment on peut récupérer de manière technique l'année scolaire. L'hypothèse la plus réaliste, c'est de prolonger l'année scolaire. Mieux vaut prolonger l'année scolaire que de faire n'importe quoi. Parce que l'année scolaire se termine au prorata des acquis scolaires, au prorata du calendrier, au prorata du programme. Maintenant que les enfants qui sont en train d'étudier, nous présumons, c'est un exemple que je donne, quelqu'un en cinquième primaire, il doit avoir des acquis propres au niveau du cinquième primaire. Si nous faisons ce que nous pouvons faire, c'est-à-dire déclarer que l'année a été terminée, on les laisse passer pour la sixième, ils montent avec des déficits.
Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Merci Jacques Mkonkole pour ce reportage. Que faire pour sauver l'année scolaire? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service. Alors on va bientôt clôturer cet entretien. Avant cela, on va accueillir des auditeurs. Amouli de Kisangani et Platini Mbombo de Mbandaka. Amouli, bonjour.
Bonjour, je m'appelle Amouli Arazi depuis Kisangani. Je parle concernant le problème là qui déroule de l'année blanche. Il n'y a pas de problème, mais alors ceux qui se trouvent dans la sixième, comment on a fait, on va faire? Et ceux qui ont obtenu aussi les frais académiques, les frais là sera généreux ou soit les frais là sera organisé ou soit les frais là sera concernant tous ces élèves qui ont obtenu quelques sommes de l'argent, si nous demandons quelques sommes, et le faire là sera considéré, non?
Oui, Amouli, aujourd'hui, on ne parle pas de l'enseignement au niveau supérieur. Merci, merci pour la question. Platini Mbombo de Mbandaka, bonjour.
Je dis bonjour, bonjour à tout le monde.
On vous écoute.
Voilà, merci beaucoup aujourd'hui, et je crois que je voudrais que c'est pas votre félicité pour la thématique, et c'est lié à la question du jour. Je crois que je voudrais justement répondre à cette question, parce que comme vous l'avez demandé, les informations qui se passent maintenant à travers le pays, et aussi, comme je peux vous rappeler aujourd'hui, l'année blanche, je sais que j'estime que ça peut se faire, compte tenu de la situation que nous sommes en train de voir maintenant.
Oui, Platini, donc, l'invité a déjà dit qu'il n'y a pas d'année blanche. Les enfants ont déjà étudié pendant 150 jours. Ça, il restait juste 30 jours, et puis bon, voilà, on ne va pas annuler tout ça.
Alors, je dis, oui. Bien que ça, mais je sais que je peux quand même vous dire, comme vous le savez bien, il y a ce qu'on appelle le calendrier scolaire. Il y a aussi des examens que les enfants font. Mais maintenant là, les enfants maintenant chôment au niveau de la maison. Et j'ai entendu la fois passée, le ministre avait dit que non, il y a un système là au niveau de la Vodacom, tout ça, que les enfants suivent et fait le cours au niveau des réseaux Vodacom, tout ça. Mais ce que moi je constate, ici à Mbandaka, il n'y en a pas. Alors je ne sais pas s'il y a une politique qu'on peut ne plus se récupérer pour le sixième primaire et de la sixième humanitaire. Parce que souvent, sur le calendrier scolaire, je crois que le 8 mai, il faudrait que les enfants qui aient la sixième humanitaire pour se faire ce qu'on appelle la dissertation. Mais maintenant, là, on n'a pas encore fait ça. Il n'y a pas même, il n'y a pas bien de cours pour que les enfants répondent vraiment à l'école.
D'accord. Coup,
alors, je ne sais pas quels sont les mécanismes, si réellement qu'il n'y a pas l'année blanche, tout ce qu'on a perdu là, comme les cours, tout ça, les enfants chômés, est-ce qu'il n'y a pas une certaine mesure de récupération pour certains enfants qui vont vraiment chômer à travers le pays? Voilà ce que je voudrais justement contribuer par rapport à ce débat. Merci.
Merci. On va prendre Katala. Sylvain Katala de Kananga, bonjour.
Bonjour M. Jordi, bonjour à l'invité.
Quelle est votre question? Rapidement.
En fait, je voudrais d'abord intervenir puisque les gens disent que peut-être il est possible de faire retourner les élèves de d'autres provinces à l'école en attendant. C'était une conception qu'on avait quand cette maladie était encore ailleurs et que c'est devenu au Congo, cela maintenant risquerait peut-être aussi de toucher à une vitesse les autres provinces et on ne serait pas peut-être en mesure de...
Quelle est la question, Katala, rapidement, parce qu'on va bientôt terminer cet entretien.
Oui, je disais, en vitesse, c'est pas nécessaire peut-être de penser seulement aux finalistes qui pouvaient d'abord reprendre parce qu'ils sont moins peuplés et ils pouvaient faire des très grandes salles, peut-être les églises, et que
pour et ça pouvait aller. C'était la question que j'avais. Merci, Jody.
Bien, merci. Paul, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Oui, c'est Paul Bounangan à Lubumbashi. Bonjour, monsieur Jody.
Bonjour, Paul. Quelle est votre question?
Oui, je n'ai pas vraiment une question, mais je voudrais certainement apporter, à faire une petite analyse par rapport à tout ce qui a été dit autour de l'état d'urgence.
Alors, vous n'avez pas beaucoup de temps parce qu'on va bientôt clôturer l'entretien, donc soyez bref.
Alors, bon, comme je n'ai pas beaucoup de temps, donc je dois faire bref. Alors, je pose de toute façon ma question à monsieur l'invité qui est sur le plateau, pour qu'il nous donne un peu de précision par rapport à la classe télévisée. Parce que nous avions appris qu'il y avait toute une campagne à la télé, qu'il y aurait une classe télévisée, mais nous nous posons aussi cette question de savoir, parce que cette classe télévisée, elle doit passer par la télévision. Est-ce que d'autres, en dehors de la ville de Kinshasa, parce que c'est une ville qui est alimentée à l'électricité, par exemple, d'autres villes du pays, certaines villes du pays qui ne sont pas alimentées par l'électricité.
Voilà, la question a été déjà posée. Merci, Paul, de revenir dessus. Merci, Théophile Mumpalwa. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces auditeurs?
Oui. Bon, en ce qui concerne les élèves qui sont en sixième année, des humanités, par exemple, pour ce qui concerne notamment leur examen d'État, il n'y a pas de problème. On pourra prolonger l'année, voir un peu le temps qui reste pour dire, bon, et au lieu de faire ça tel mois, on pourra récupérer pendant les grandes vacances et puis organiser les examens d'État à cette période-là. Parce que ce sont des adultes, ils comprennent un peu par rapport aux plus jeunes. Mais le problème maintenant, c'est surtout les plus jeunes, ceux qui sont en primaire. Là, pour l'instant, c'est n'importe quoi. Ceux qui ne s'occupent, qui ne font rien à la maison, eh bien, ça devient une préoccupation pour nous, les parents. Hein, il faut les occuper, il faut ainsi de suite. C'est comme ça que le ministère a prévu ce qu'on appelle l'enseignement à distance pour pouvoir les aider à résoudre un peu ce problème de nonchalance qui se passe pour certains à la maison présentement. Donc, ils doivent utiliser les réseaux sociaux, ils doivent utiliser ce que vous appelez la radio scolaire bientôt pour essayer un peu de combler les manques à gagner par rapport à leurs connaissances, par rapport à leur savoir. Bon, pour ce qui concerne je crois que c'est cela, je vois ici.
Quelqu'un, dans le reportage de Kisangani, quelqu'un a proposé le préceptorat, qu'on puisse recourir au préceptorat.
Oui, le préceptorat. Regardez un peu, tout dépend du dialogue entre les parents et les précepteurs et ainsi de suite. Donc, il y a des parents qui peuvent bénéficier justement de l'apport des précepteurs, absolument. Ça, c'est le cas de l'aider. Ils doivent dialoguer parce que les parents, parfois, pas parfois, ils sont en difficulté, parce que les précepteurs ne font pas ce travail de façon bénévole. Ils vont exiger les retombées, etc., le paiement. Ils doivent négocier avec les parents, trouver le modus vivendi pour essayer un peu de... Mais à quoi est-ce que ça va aboutir? Parce que là, ils vont s'occuper d'un certain nombre d'élèves, d'enfants, et les autres enfants dont les parents n'ont pas les moyens. Parce que le problème ici, c'est de généraliser le problème. Mais quand vous particularisez cela, vous dites que c'est pour un certain nombre d'enfants. Alors, même si vous répétez leur matière, vous aidez à répéter leur matière, ainsi de suite.
Théophile Mumpalwa, actuellement, il y a des écoles, les parents vont à l'école, ils prennent les exercices, les devoirs, même dans les milieux ruraux, ils prennent les devoirs, ils vont travailler avec les enfants, et puis bon, ils ramènent à l'école, les enseignants corrigent.
Oui, d'accord, pour certains, c'est pas pour tout le monde, hein, n'est-ce pas? Absolument. Oui. Donc, on peut adopter ce système de préceptoral, mais ça peut poser des problèmes en ce qui concerne les autres enfants qui sont un peu plus défavorisés. D'accord. Par rapport aux autres, parce qu'il faut généraliser
le programme, c'est général, c'est pas réservé à une catégorie, ainsi de suite. Voilà un peu le problème qui est là.
Bien, merci. Voilà, merci, merci voilà. Théophile Mompalo. Oui, Monsieur Rombo Makadi, vous êtes, je rappelle que vous êtes conseiller chargé des provinces et suivi des normes au ministère de l'EPST. On va bientôt terminer cet entretien. On va résumer. Bien qu'est-ce sûr. On retient d'abord que l'année ne sera pas blanche. Donc, il y aura un calendrier réaménagé.
Oui, je l'ai dit donc au départ, le ministère donc a pris un certain nombre de dispositions pour effectivement sauver l'année scolaire. Le problème a été posé aux spécialistes et les spécialistes vont donner des orientations. Donc dès qu'on aura donc des orientations et même l'autorisation de l'autorité suprême, il y aura un calendrier réaménagé qui sera publié. Ici, je voudrais revenir sur l'enseignement à distance. Je dis l'objectif du ministère, c'est pour encadrer les enfants pendant cette période, pour qu'ils ne puissent pas être déconnectés, pour qu'ils puissent continuer à garder ces goûts-là, cette ambiance-là de l'école. Et comme ça, à la reprise, pour qu'ils n'aient pas de difficultés. C'est très important. Et par rapport donc à cette formation donc à distance, le ministère a aussi prévu une autre hypothèse pour encadrer les enfants qui n'ont pas accès effectivement donc à l'internet par exemple ou à la télévision. Alors s'agissant donc de la classe télévisée, là effectivement le ministère a pris contact avec des médias qui ont une couverture nationale. Je ne vais pas citer ici les noms des supports par exemple parce que ce n'est pas le lieu qui est indiqué. Donc l'objectif du ministère, prendre contact avec des médias qui couvrent effectivement donc l'étendue du territoire national pour atteindre un nombre important donc d'auditeurs, donc auditeurs jeunes qui sont donc la cible.
Les téléspectateurs.
Oui, non, en termes de cible. D'accord. La cible ici, donc, ce sont des enfants.
D'accord.
Alors, cette classe-là télévisée, donc, c'est comme, effectivement, comme si on s'est trouvé dans une salle de classe, animée par un enseignant, et des matières qui sont retenues dans le programme scolaire. N'est-ce pas, dans le programme scolaire. Je voudrais ici revenir sur sur toutes les idées qui sont avancées à gauche et à droite, surtout l'auditeur-là qui propose, donc, des percepteurs et ainsi de suite. Donc, en ce qui concerne l'enseignement, il est national. Alors, lorsque le gouvernement aura donné l'autorisation, ou en attendant l'autorisation, le ministère va donner des instructions précises aux responsables au niveau de la province pour des directives précises pour encadrer donc les enfants à travers les enseignants. Donc, le ministère décourage les initiatives qui risqueraient de perturber les enfants inutilement. Donc, il faudrait attendre les instructions précises et les provèdes, les sous-provèdes ainsi que les inspecteurs. Ils seront donc contactés pour voir dans quelle mesure les enfants pourraient être encadrés à travers donc leurs enseignants. Alors donc toutes les dispositions là qui ne rentrent pas vraiment dans le cadre donc de la norme tout ça. Oui. Donc je pense que le ministère décourage ça. Et l'enseignement à distance d'ailleurs. Oui. L'enseignement à distance ne sera pas évalué. Voyez donc les gens ils se plaignent donc
bien qu'il y a certains coins qui ne seront pas couverts
donc il n'y a pas d'évaluation.
Oui,
il n'y aura pas d'évaluation. C'est juste un encadrement des enfants à cette période très très difficile. Oui.
Bien, merci monsieur Rombo Makadi, je rappelle que vous êtes conseiller chargé des provinces et suivi des normes au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci monsieur le journaliste.
Merci également à monsieur Théophile Amoumpalois, psychoéducateur, chercheur et chef des travaux à l'université pédagogique nationale. À la prochaine.